Et bonjour chers auditeurs de Fly FM. Aujourd'hui, c'est la reprise de mon émission et j'ai le grand plaisir de recevoir Eric Mercadier qui est avec moi.
Bonjour.
Le manager général du rugby club Omenavals, nouvel entraîneur depuis cette année. Donc on va revenir avec toi dans une deuxième partie d'émission sur un petit peu le terrain et les objectifs du club et l'intersaison, comment ça s'est passé, avant de revenir sur le premier match de championnat gagné face à Villeurbanne, la Pape, exactement, qui est le stade métropolitain.
D'accord.
Voilà, qui regroupe les deux villes. Et avant ça, on va prendre par téléphone Xavier Tour, le secrétaire général du club d'Omena, qui va nous parler un petit peu du club. Xavier, tu es avec nous ?
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Et écoute, bonjour Xavier, merci de nous faire le plaisir d'être là. Avant de parler du terrain avec Eric, on va parler un petit peu du club en général et un peu de l'infrastructure du Racing Club d'Omena-Vals avec toi, si tu veux bien.
C'est avec grand plaisir et je tiens déjà à vous remercier de mettre le rugby du Sud Ardèche à l'honneur sur vos ondes. C'est quelque chose qui effectivement en tant que voisin nous fait chaud au cœur et on vous remercie là-dessus.
Eh bien écoute, on merci beaucoup à toi aussi, on vous suivra, puisque on est du côté de Monteux, vous venez dans pas longtemps à Bédaril, on viendra vous voir avec plaisir. Un concurrent dans ce championnat. On va revenir un peu sur Obena, les grandes dates où on retrouve du rugby à Obena déjà en 1906 avec deux équipes qui étaient le Glantine et l'Étoile. Alors je pense que tu étais pas né, mais tu connais un petit peu l'historique du club.
Alors j'étais pas né, c'était pas encore un projet non plus. Donc simplement dans cette période-là, effectivement, il y avait ce qu'on appelait des rivalités de clochers avec ces deux équipes qui étaient une sur Obena et une sur Vals et qui profitaient d'un terrain un petit peu dans l'Ardèche. Et Eric pourra le confirmer, on est un petit peu vallonné, donc il fallait déjà trouver un terrain pour qu'on puisse s'affronter. Ce n'est que dans les années 50 que les municipalités d'Obena et de Vals se sont dit de cette rivalité, on va en faire une force et on va en faire une union et on va composer un club de rugby. Un club de rugby, ben, les fonds baptismaux du rugby club Obena Vals ont été déposés en 1966. On a commencé par les premiers championnats de régionaux, où on œuvrait sur les quelques équipes locales, avec, les anciens se souviennent, de brillants résultats à l'époque. Et puis petit à petit, ce club s'est structuré. Alors, pour les auditeurs de Monteux, Obena est un bassin, c'est une ville de 10 000 habitants, 12 000 habitants, mais qui va rassembler toutes les forces vives du Sud Ardèche qui vont converger dans ce club pour pouvoir pratiquer le rugby. Dans les faits d'armes de notre club, on va retenir l'année 99, où on a été champion de France de National 1. Ce match s'est déroulé à Nîmes contre Grolier, et dans notre équipe, il y a quelqu'un qui est bien connu des terres vauclusiennes, puisque Rémi Martin, qui était à l'époque tout jeune joueur, faisait partie de cette équipe de 99, sous l'égide du président Bernard Duplan. Ce qui nous a valu l'année suivante de pouvoir évoluer de ce qu'on appelait à l'époque la Pro D2, mais qui n'a rien à voir avec la Pro D2 telle qu'on la connaît aujourd'hui. Plus près de nous, nous serons à jamais les premiers, nous aussi, pour avoir gagné le titre de championne de France espoir la saison, le Challenge de France, pardon, puisque c'est son nom précis, qui avait été initié il y a 2 ans dans les catégories espoir de catégorie nationale, et nous avons brillamment remporté ce titre. Voilà donc pour les faits marquants au niveau des dates, au niveau du club, et puis puisqu'Eric est avec vous, je lui souhaite d'apporter des lignes supplémentaires à notre palmarès.
Oui, mais écoute, il a à côté, il acquiesce à côté de moi pour pourquoi pas une montée nationale, au moins jouer les phases de finale cette année, Eric. On en parlera après, mais...
Oui, ça c'est un peu...
Aléatoire.
C'est un peu rapide comme demande.
C'est vrai. Ah ben écoute, Xavier, ça sera pour l'année prochaine.
On verra.
Non, on verra. On va revenir sur toi, puisque Eric est nouveau au club, il ne connaît pas encore trop la structure. Moi, ce qui est intéressant, c'est au niveau du pôle formation et de ce que vous faites au niveau des jeunes, puisque vous avez un centre de formation, vous avez 3 lycées d'Omena qui sont partenaires avec le club. Tu peux nous tailler un petit peu comment se déroule la formation au sein du club, s'il te plaît ?
Alors, parfait. Parfaitement. Au niveau du club, on a, comme tu l'as dit, trois sections. On a la section école de rugby, on a la section pôle jeune et on a la section équipe première. Donc la partie école de rugby, on accueille les enfants de l'âge de 3 ans avec du baby rugby jusqu'à l'âge de 12 ans, où là nous avons donc toute une équipe qui pilote l'école de rugby, sur lequel cette école de rugby est labellisée au niveau de la FFR, hein, le premier niveau de labellisation. On a été reconnu en tant que tel la saison dernière, et ce pour 3 ans, et on travaille petit à petit pour pouvoir monter les échelons. Sur le pôle jeune, nous avons donc, comme la Fédération française de rugby nous l'impose, nous avons 3 catégories, donc une catégorie U14, une catégorie U16 et une catégorie U18. Nous sommes en championnat national pour les catégories U18 et U16, mais comme je le soulignais tout à l'heure, le bassin n'est pas extensible, un petit village de 10 000 habitants. Hein. Une équipe de rugby, ce n'est pas un bataillon, une équipe de pétanque, et il nous faut quand même pas mal de jeunes, et il nous faut beaucoup de jeunes dans ces catégories, à peu près une quarantaine de jeunes. Or, la problématique de l'Ardèche, c'est que nous n'avons pas d'université, donc ça veut dire que tous nos jeunes sont obligés de partir sur la région lyonnaise, la région marseillaise, la région grenobloise ou Clermont-Ferrand pour faire les études, et qui derrière nous pénalise un petit peu au niveau des bassins. Donc on est obligé de faire des regroupements avec des petits clubs régionaux qui sont à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Je vais citer l'Union de l'Ardèche méridionale, et je vais citer le rugby club de Villeneuve-de-Berg. Donc sans l'apport de ces petits clubs et sans la bonne entente et la collaboration avec ces petits clubs, nous ne serions pas en capacité d'aligner des équipes sur les championnats U16 et U18. En deuxième lieu, sur les seniors, et je laisserai Eric parler de l'équipe première, nous avons une équipe espoir qui est alimentée par un centre d'entraînement labellisé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le club, nous avons eu la volonté, enfin le président a eu la volonté de maintenir ce centre de formation labellisé. Alors on n'est plus centre de formation, on est centre d'entraînement labellisé, mais en gros, on a voulu rester structuré pour que si demain nous montions, nous puissions satisfaire aux exigences de la fédération en passant d'un centre d'entraînement labellisé avec un centre de formation labellisé. La chose qui nous manque, c'est l'attribution d'un médecin en titre qui est là-dessus. Et on est comme beaucoup d'endroits, on souffre aussi sur les déserts médicaux, et que trouver un médecin qui est disponible pour pouvoir venir tenir ses permanences au club, là où on n'est pas capable sur le bassin d'avoir des médecins qui ont des cabinets, c'est quelque chose qui est assez complexe. Mais en tant que bon Ardéchois, on ne va pas baisser les bras, on va lutter pour pouvoir y arriver.
D'accord.
Sinon, donc sur la structure club, on était l'an dernier, il y avait 255 joueurs, il y avait 5 filles. Alors pourquoi que 5 filles? Parce que sur le bassin, il y a un deuxième club qui est un club exclusivement féminin. Donc nous accueillons les jeunes filles sur la partie école de rugby.
D'accord.
Et puis derrière, c'est nos collègues des Ovalines qui reprennent la main sur la partie, on va dire, tranche au-delà de 12 ans. On s'appuie sur 55 dirigeants, 33 éducateurs et 17 bénévoles pour faire tourner cette machine. Je profite d'être présent sur vos ondes pour remercier tous ces bénévoles. Une denrée qui est de plus en plus rare, mais ô combien précieuse sur lesquelles nous avons de gros besoins, comme beaucoup d'organisations.
Oui, tu as raison, c'est vrai que les bénévoles, c'est de plus en plus rare, et de s'investir au sein d'un club ou d'une association, c'est compliqué. Et au niveau de la structure professionnelle, le club compte combien d'employés?
Alors, j'y viens là-dessus. Alors, juste un petit zoom quand même aux bénévoles, parce qu'on a une équation qui est quand même difficilement soluble. On a un sport qui se professionnalise à juste titre, et c'est très bien. On a une exigence fédérale qui est de plus en plus grandissante, et c'est très bien. Mais il faut penser que derrière, vous avez des gens qui sont bénévoles, et que pour faire ça, il faut les former, il faut les accompagner. Et ces formations et ces accompagnements se font sur leur temps de travail. Juste un petit point. Pour former un bénévole sur des catégories écoles de rugby, il faut 9 jours de formation.
Oui.
Ça veut dire qu'en plus de l'engagement quotidien des week-ends, il faut trouver des personnes qui seront disponibles pour se former à hauteur de 9 jours sur une année. Donc ça devient de plus en plus complexe.
D'accord.
Sur la partie, on va dire, plutôt administrative et la partie structurelle. Donc dans les employés du club, nous avons une personne qui m'accompagne au quotidien, qui est au niveau de l'administratif. Nous avons 3 éducateurs formés qui sont sur la partie pôle jeune. Et avec Eric, il y a 5 personnes qui travaillent avec lui au quotidien, dont un kiné, un préparateur sportif, une personne qui va s'occuper de la partie vidéo, et puis l'entraîneur des équipes espoirs et son entraîneur des lignes arrières. Et puis, il ne faut pas oublier, l'essentiel, c'est que nous sommes aussi, parce que nous évoluons en National 2, un club qui a un statut professionnel. Ce statut professionnel fait que nous avons 28 joueurs qui sont sous contrat fédéraux, soit des contrats exclusifs, soit des contrats pluriactifs, et bien sûr 12 autres joueurs qui sont sous contrat, mais qui ne sont pas dans le cadre de contrats fédéraux.
Fédéraux, oui, d'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce résumé de la structure du club. Justement, on va venir, puisqu'on parlait un petit peu des contrats, au niveau du budget du club, quel est le budget pour cette saison 2024-2025?
C'est un budget qui avoisine les 2 millions. On est comme beaucoup de clubs, le post-Covid nous a... Il faut aller chercher des partenaires. Il y avait des choses qui... Il faut se dire qu'un club de rugby est une entreprise. Donc on a les mêmes problématiques que rencontrent les entreprises. Donc un budget qui avoisine les 2 millions. La part déplacement, puisque...
Oui, on en parle.
De l'ensemble de l'école de rugby jusqu'aux équipes premières, et je ferai des focus sur des longs déplacements. Mais on est sur un budget d'à peu près 80 000 euros uniquement pour les autocaristes.
D'accord, oui, justement, puisque dans cette National 2, les juniors vous suivent dans les déplacements, et vous avez quand même des déplacements assez particuliers à Rennes, entre autres, à Nantes, assez longs. Ça, c'est un gros impact sur le budget?
Alors l'impact sur le budget, il faut compter qu'un déplacement qui est sur Nantes ou Rennes, c'est à peu près 15 000 euros. Mais dans l'organisation, la difficulté, elle n'est pas que financière. La Fédération française a pris l'option, à la demande des clubs de National 2, de pouvoir faire évoluer les équipes espoirs en même temps que les équipes premières. Ça sous-entend que nos espoirs évoluant en levée de rideau. Lors des longs déplacements, nous sommes obligés de partir le vendredi avec des jeunes et qui travaillent. On est obligé de différencier l'organisation pour l'équipe première de l'équipe espoir. Cas concret, on prépare le déplacement pour Orléans. Donc l'équipe première risque partira en début d'après-midi le vendredi. Par contre, l'équipe espoir partira en fin d'après-midi. Et là, avec l'autocariste, on est obligé de gérer les temps de travail des chauffeurs,
oui,
les amplitudes horaires des chauffeurs. Donc tous ces éléments qui sont annexes au niveau du rugby, mais qui pour la partie logistique nécessite un gros effort et surtout ne pas se tromper, parce que derrière il y a du respect du temps de travail, il y a de l'humain, il y a tous ces facteurs qui sont là autour.
D'accord. Alors dernière question, avant de faire une pause et de te laisser, tu as parlé des objectifs du club via Eric, mais par rapport à vous, la direction, est-ce que vous avez des objectifs précis en termes d'équipe première pour cette année?
L'objectif est de se maintenir au niveau où on est. Et quand je dis un maintien, c'est un maintien sportif et pas un maintien administratif, comme on a pu l'avoir, parce que nous évoluons cette année parce que la fédération nous a repêchés. Nous n'avions pas réussi à obtenir le maintien sportif l'an dernier. Et cette année, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse se maintenir et puis poser encore plus de bases sur l'organisation du club pour pouvoir prétendre plus haut.
D'accord. Mais écoute, merci beaucoup. On va te laisser et on viendra avec plaisir vous suivre tout au long de la saison à Aubenas et diffuser un petit peu vos résultats et la suite de la saison et votre beau parcours. Écoute, merci beaucoup Xavier.
Écoutez, c'est avec grand plaisir. Et puis, s'il y a des Vauclusiens qui ont envie de jouer au rugby en Ardèche, vous pouvez leur dire qu'on sait les accueillir, On sait les accompagner, on sait les former, mais on sait les héberger.
Eh bien, écoute,
les portes leur sont grandes ouvertes.
Ouais, et on partagera un petit peu le site officiel du club, comme ça, tous les Vaucluisiens qui veulent se voir un petit peu le club se renseigneront, et aussi des partenaires, pourquoi pas, pour vous rejoindre, même s'ils sont loin.
Écoutez, merci beaucoup.
Ben de rien, bonne journée Xavier,
bonne
à très
journée.
Bientôt.
Merci.
Merci. Allez, on fait une petite pause avec Angoun et Face au vent et on revient dans trois petites minutes. Et voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie après avoir écouté Xavier qui nous a fait un petit peu l'historique du club et le tour du club d'Aubenas. On va arriver plus au terrain cette fois avec Eric Mercadier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien joueur, il a connu l'élite. Passant par entre autres Albi, Castres, Le Loup et Villefranche de Lauragais.
Tout à fait.
Donc voilà, dans ces clubs, il y en a un qui t'a le plus marqué ?
Non, enfin marqué, tous m'ont marqué à leur façon et j'espère avoir laissé des traces un petit peu partout. Mais tous les clubs où je suis passé m'ont marqué quand même.
Toute
leur identité, les gens que j'ai rencontrés et les performances qu'on a pu y faire. Je sais pas ce que j'ai eu du plaisir. Dans tous les clubs.
Ensuite, tu brigues une carrière de manager, d'entraîneur, avec pas mal de clubs à ton actif. Tu es un vrai globe-trotteur.
ouais.
Verfeuil, entre autres, le FCTT, qui est un club toulousain.
Tout à fait.
Saverdun, Castelnaudary, Blagnac, Riom, Pamiers, Châteaurnat, Aubenas.
Non, il faut quand même savoir, ça fait longtemps que je suis sur le marché.
Ah bah oui, ça fait longtemps. Mais,
ce qui est quand même bizarre, c'est que j'étais pas formaté pour être entraîneur. Et c'est juste à Verfeuil, justement, le premier club, là. Et c'est les copains qui m'ont appelé, ils m'ont dit viens avec nous. Je pensais arrêter carrément. Et j'ai dit allez banco, et puis j'ai appris à entraîner avec eux, j'ai appris à aimer ça, et puis depuis je ne suis plus sorti de là-dedans.
Ouais, du coup, ben, tu as répondu à ma question, parce que le passage entre joueur et entraîneur, pour toi c'était une évidence ou c'était une opportunité?
Non, c'était pas du tout une évidence, non du tout. Je ne voyais ni arbitre ni entraîneur, et puis voilà, tu vois, je suis entraîneur, manager, ça fait des années, et c'est une passion. Bien au-delà du rugby, moi ce qui m'intéresse dans cette passion-là, c'est l'humain, ces rencontres, ces échanges, c'est d'amener une équipe d'un point A à un point B, de rencontrer des gens, de rencontrer d'aller à l'encontre d'une population, d'une région. C'est surtout ça qui me plaît.
Ouais, tu es très proche de tes joueurs et aussi des acteurs de chaque club où tu es passé. Je pense que tu as laissé. Alors, il y a quelques clubs où ça s'est peut-être pas très bien terminé, mais tu as laissé quand même de très bons souvenirs avec des résultats assez probants dans chaque club où tu es passé.
Ben, depuis que je suis entraîneur, je me suis qualifié tous les ans.
Ouais.
Donc ça, quand même, je suis assez fier. On a fait plusieurs montées avec... J'ai fait plusieurs montées avec plein de clubs et du coup, je pense que rugby cyclement, c'est pas mal. J'aurais bien aimé avoir un titre que j'ai pas encore. J'aurais bien aimé... peut-être aller un jour plus haut, mais l'opportunité c'est pas faite.
Ouais, tu as encore le time, tu as encore
le temps. Je pense que c'est mort pour moi maintenant. Mais en fait, maintenant je m'en fous. Moi, ce que d'entraîner n'importe quel niveau, le principal c'est d'arriver à fédérer, d'arriver à mener ton équipe où tu veux. Quand même.
Ouais, où tu veux. Et donc équipe actuelle National 2. Alors pour moi, c'est un championnat qui a été créé il y a 2 ans. Ce groupe, c'est une passerelle entre la Fédéra 1 finalement et le National. C'est une division compliquée.
Compliquée parce que financièrement elle est exigeante. Elle est entre deux eaux, donc c'est compliqué à faire venir des joueurs, à faire rêver des joueurs. Mais elle me semblait quand même nécessaire dans le fait que à l'époque il y avait la Fédérale 1 et la Pro des deux par exemple.
Oui.
Et il y avait des clubs sur une année féerique arriver à monter en Pro des deux, c'était pas possible quoi. Donc qu'il y ait des SAS, ça me semble logique, mais bon, peut-être 2 SAS ça fait trop, c'est à voir. Bah, enfin, moi je suis pas calé pour ce genre de choses, mais il me semble que peut-être ce SAS me semblait important entre la Fédérale 1 et la Pro des deux par contre.
Ouais, la Pro des deux, alors ça c'est une passerelle, on verra à la fin de la saison, puisque Aubenas il est depuis 2 ans déjà, même si l'année dernière a été repêché. C'est la 3e année dans cette division. Comment se sont noués les contacts et comment es-tu arrivé à Aubenas?
Bah, par relation, ils m'ont appelé, ils savaient que mon aventure à Château-Renard se terminait, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Fabien qui est malheureusement parti maintenant et qui voulait que je vienne au club, donc je savais le club en difficulté, ça doit être... ça doit être dans mon ADN que d'arriver dans des clubs en difficulté. Ouais. Donc je savais le challenge compliqué, mais bon, je dois être un peu maso.
Ouais, tu es un peu maso, puisque ce qui peut te résumer au niveau des clubs que tu as choisi de rejoindre, c'est se relever, faire le dos rond, se reconstruire, retrouver du plaisir. C'est un peu dans tous les clubs où tu es passé, qui étaient en difficulté, que tu as réussi à relever, à redonner quelque chose, une âme à beaucoup de clubs finalement.
Depuis les trois derniers clubs, depuis Pamiers, je suis arrivé, il devait descendre en Fédéral 2, ouais. S'il n'y avait pas eu la Covid. En deux ans, on monte en National 2, bon, il s'est passé ce qui s'est passé après. J'arrive à Château, s'il y avait pareil, s'il devait descendre en Fédéral 2, et on voit, on est tombé à un match de la montée en National 2 la saison dernière, avec une équipe de jeunes, avec une équipe extraordinaire, et donc on a vécu des émotions fabuleuses. Et donc j'arrive à Aubenas, s'il n'y avait pas eu un club ou deux en difficulté, je pense qu'il descendait en Fédéral 1. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le même genre de projet, de challenge.
Ouais, c'est un beau projet en effet. Donc début juin, tu découvres une région que tu ne connaissais pas, l'Ardèche. Et puisque tu es originaire du Midi-Pyrénées, de Toulouse.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc tu découvres Aubenas, cette jolie petite ville et son très joli petit stade à côté, à Vals, il me semblait, le stade.
Non, il est entre Vals et Aubenas, à Ussel. J'ai découvert une belle ville, une belle région. Franchement, c'est très 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 beau.
Ouais. Donc avant le double stage, les reprises d'entraînement, il y a une période qu'on appelle le mercato, hein, au foot ou au rugby, avec 19 arrivées, il me semble, et autant de départs pour cette nouvelle saison. On va revenir sur quelques arrivées intéressantes pour présenter un petit peu le nouveau groupe.
Ça fait 2-3 ans qu'il y a 19-20 départs chaque fois. Bon, j'ose espérer que si je peux travailler à moyen et long terme, on arrivera. J'ai pas envie de recruter 20 mecs tous les ans, c'est pas le but. Le but, c'est de fédérer. J'ai recruté une équipe jeune, avec des joueurs jeunes. J'espère pouvoir travailler avec eux sur le moyen terme. Ça m'intéresse pas de recruter 20 mecs tous les ans, je trouve que c'est pas bien. Là, c'est une obligation, donc on y a été, il fallait pas. Voilà. Le président m'a dit, tu peux recruter un chaise musicale, c'est-à-dire il y a un départ, tu recrutes. Et donc on a recruté un chaise musicale, il y a eu des départs, seconde ligne, on a recruté seconde ligne, deux secondes lignes, on a recruté deux secondes lignes, etc., etc. Mais je sais que c'est compliqué de changer à moitié l'effectif tous les ans. Il va pas falloir qu'on fasse ça trop souvent.
Ouais, alors j'ai un contrat de 2 ans. Ouais. À Aubenas, et c'est vrai que tu parles du coup d'osmose en ayant un groupe plus réduit sur les arrivées peut-être l'année prochaine et un peu plus homogène du coup, parce que avec 19 arrivées c'est compliqué de mettre en place une équipe. Alors, rapidement,
la chance que j'ai eue, c'est que les mecs sont franchement très 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 bien, mais ça je le savais, hein. Dans mon recrutement, en fait, je regarde la qualité rugbystique, certes, mais aussi les qualités humaines, ce que chaque joueur peut m'apporter. Et je veux surtout pas des gars qui très très bons, mais qui m'amèneront rien sur l'état d'esprit. Donc franchement, pour le moment, je suis absolument pas déçu. Et puis les anciens qui sont restés, ils ont une envie de bien faire, ils ont une envie de ils sont frustrés de la saison dernière, donc ils ont envie de faire des choses bien. Donc cette osmose est en train de se passer. J'espère qu'elle va durer.
Ouais, qu'elle va durer. On va citer quelques 4-5 joueurs si tu veux bien. Ouais. Ou alors on ne cite pas du tout pour ne pas citer les 19. Je ne sais pas.
Vas-y, c'est toi.
Non, mais tu as amené des joueurs que j'ai vu l'année dernière, Lucas Carpentier, que tu as ramené de Château.
On peut en parler, je le connais bien. Je l'ai eu pendant 2 ans à Château. C'est un gamin qui a que 23 ans, qui va prendre de la bouteille, qui à l'époque, au départ, n'était là que pour défendre, mais puis maintenant il est capable de jouer, de faire des hot flots, de prendre des ballons, d'annoncer. Il va prendre de plus en plus de bouteilles. Et c'est surtout quelqu'un d'hyper sympa et très bonnard dans un groupe.
Ouais, très bon petit jeune, excellent plaqueur aussi.
Oui, très bon plaqueur.
Edgar Bazin, que tu as cherché à Rumini.
Oui, tout à fait. C'est un ami qui est agent, Jérémy, qui m'a dit je te conseille ce joueur, avec aussi également un état d'esprit formidable. Et donc je me suis bien renseigné, je l'ai regardé jouer, je me suis renseigné un petit peu sur son état d'esprit. Et effectivement, on ne s'est pas trompé sur le bonhomme.
Ouais, c'est un très bon joueur. Le petit Arnaud Soula, qui vient de Béziers.
Ouais, ça c'est une entente avec Béziers, avec mon ami Benjamin Bagat, qui Arnaud, c'est un prêt en fait. Hein, c'est pas une. Ouais. Pour le moment, c'est un prêt. Alors, pour lui, je souhaite que le prêt soit court, et pour nous, je souhaite qu'il soit long. Et, mais voilà, c'est, en tout cas, c'est un très très bon mec.
Très bon mec. Alors, excuse-moi pour la prononciation, parce que tu as quelques Géorgiens dans ton, dans ton effectif, et y a des fois, des noms sont un peu compliqués. Le plus simple, c'est David Averladze, qui était cherché à Oyonnax.
D'accord, c'est un gamin qui était en espoir à Oyonnax. Ça, c'est Ludo qui m'en a parlé, parce que son fils joue à Oyonnax. C'est un guerrier, c'est un gars qui a l'écoute, c'est un gars qui a envie de progresser, c'est un gars qui a envie de monter. C'est un gars qui est autant dans l'humilité que dans la performance, donc ça me va très très bien.
Bon allez, on en fait un dernier. Vidmore, c'est où? Tiens.
Oui, alors là c'est une pioche de dernier moment, c'est un centre qui était à Nevers, qui avait du mal à franchir le palier par un manque de confiance de son coach. Alors je sais pas qui a raison ou pas, je pense qu'il y a un potentiel énorme, je pense qu'il y a de la puissance, de la vélocité.
Ouais,
de...
il est très puissant, voilà. D'origine fidjienne.
Ouais, c'est ça.
D'origine fidjienne, après tu as deux Géorgiens, je vais pas les prononcer pour pas écorcher leur nom. Si tu veux les prononcer, je te laisse faire,
c'est ton métier.
Alors, c'est mon métier. Donc, ça c'est à peu près le recrutement. Si tu as d'autres joueurs que tu veux, un ou deux autres que tu veux citer dans ton recrutement.
Non, mais il faut. Je regrette, il faudrait qu'on les cite tous.
Mais voilà.
Mais tous mériteraient d'être cités, même ceux qui n'ont pas fait partie du groupe ce week-end. Pour moi, on a 39-40 joueurs qui sont en capacité de faire partie de ce groupe-là. Il m'en faut 23 tous les dimanches, il est normal que certains tournent. Je passe à Nicolas Gogoladze, c'est le jeune pilier gauche qui vient de Carcassonne. Il n'a pas été dans le groupe, il a joué en espoir ce week-end. Il a été très bon en espoir. C'est un gamin qui est très jeune et qui a une grosse marge de progression. Et c'est des gars sur qui on va compter sur les années à venir aussi. Hein.
Et oui, bien sûr, il y a l'avenir aussi du club avec le centre de formation, plus des jeunes joueurs que tu as recrutés.
C'est un Géorgien, mais qui est français, par exemple. On a plusieurs Géorgiens, mais qui sont français, avec des noms Géorgiens qui sont français.
Hein. Les autres Géorgiens sont Géorgiens et ils sont imprononçables. Je suis désolé pour eux. Donc après le recrutement, bien sûr, repris d'entraînement le 1er juillet dernier.
Oui, tout à fait.
Où ça monte à puissance. Et vous avez fait un petit stage parce que j'y suis allé, moi, à la Croix de Boson.
D'accord. Oui, super, la Croix de Boson. En fait, on voulait s'imprégner de... Au départ, je voulais partir loin, un stage, comme j'ai l'habitude de faire. Puis après, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Autant s'imprégner de notre environnement. C'est un département fantastique. Donc, on va s'imprégner de notre environnement. Et donc, quoi de mieux que de monter à la Croix de Boson, une station de ski à 25-30 km d'Aubenas, enfin une heure et demie presque. Mais voilà, on parle plus en temps qu'en kilomètres. Et voilà, on est arrivé dans un endroit où les gens nous ont accueillis formidablement, un endroit où on a pu faire une randonnée super, des activités.
Barbecue,
se retrouver ensemble après le soir. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne peut pas s'éparpiller ça, dans ce genre d'endroit, parce qu'il n'y avait que nous. Donc on n'a pas pu s'éparpiller sur quand tu fais un stage au bord de mer. Des fois, après le repas, tout le monde s'en va à droite à gauche chercher autre chose que de la solidarité collective. Et là, le fait qu'on soit en haut de la montagne, on était obligé de rester tous ensemble
la nuit. C'est un stage très sympa et c'est très important pour la cohésion de l'équipe.
Ça me paraît primordial, parce que se rencontrer sur le terrain, c'est bien, mais se rencontrer à côté. Ce moment-là permet d'échanger, de parler avec des gens avec qui je n'ai pas eu le temps de parler encore. Et puis ce jour-là, on n'a pas fait que boire et manger et marcher, on a aussi déterminé ensemble nos règles de vie et nos ambitions.
Ouais.
J'avais envie de rendre les joueurs acteurs de
leur saison
et pas spectateurs. C'est-à-dire, comment tu veux que la saison soit? Est-ce que tu veux juste galérer, tu veux juste te sauver ou tu veux te qualifier? C'est toi. Alors j'ai fait des petits papiers, ils m'ont tous rendu ça, ils veulent tous se qualifier. J'ai dit maintenant la qualification.
Elle vous appartient.
Elle va être dure, elle va être compliquée à aller chercher, mais c'est un projet qui vous appartient. C'est vous qui l'avez décidé. C'est pas moi, manager, c'est pas le président, c'est pas le club, c'est vous, c'est nous. On a décidé ensemble, un soir d'été, au fin fond de l'Ardèche, d'aller peut-être chercher la qualification. Je sais pas si on l'aura, mais en tout cas, c'est un projet maintenant qui leur appartient.
Commun, bien sûr. C'est un projet qui appartient Alors, après ce stage, deux matchs amicaux qui sont parfaitement déroulés, deux victoires contre la Seine et...
Oui, certes, certains diront que c'est deux clubs de Fédéral 1,
ouais.
Mais c'est jamais évident de jouer contre les clubs de Fédéral 1, je le sais. On a marqué deux fois deux points de bonus offensifs. Les matchs n'ont pas été parfaits, on aurait pu faire beaucoup mieux, mais bon, ça fait partie de notre progression que de jouer et de faire parfois des erreurs sur ce genre de match.
Ouais, alors ça c'est l'intersaison qui se déroule et on arrive à dimanche dernier, samedi dernier.
Et juste avant, si tu peux me permettre, on a fait vraiment une rencontre grâce à mon ami Régardeau à Aix-en-Provence,
oui.
Juste après ces deux matchs amicaux et après le stage, avant le stage. On a fait ce match avec Aix-en-Provence, on a fait ce match, cet entraînement dirigé en faisant des touches, des mêlées, du jeu de trois quarts. Ils nous ont reçus merveilleusement bien. Je tiens à remercier ce club d'Aix-en-Provence et son manager, Mauricio, qui nous a reçus vraiment, vraiment bien. Et eux, ils n'avaient rien à gagner de cet échange-là. Et nous, on a eu tout à y apprendre et à rêver de jour. Les jeunes joueurs ont dû sûrement rêver de ce niveau-là. Et ça nous a fait progresser. Et voilà, c'est des moments extraordinaires.
Ouais, c'est des bons moments. Bon, on rappelle Aix Pro D2, mmh.
Hein, qui, oui, très haut niveau de Pro D2 en plus.
Très haut niveau, oui, puisqu'ils ont manqué la qualification, ouais. Et la montée, ouais. En top 14 contre Grenoble l'année dernière. Et puis on arrive au premier match.
Oui.
Là, c'est le week-end dernier face au Stade Métropolitain. C'était déjà un gros match à jouer parce que c'est le Stade Métropolitain avait fini premier l'année dernière de cette Coupe nationale 2. Mmh. Donc c'est la région lyonnaise, Villeurbanne et Rieux-la-Pape, ce club. Et une victoire 21-13.
Ben, une victoire, seule la victoire est belle, c'est ce que je leur ai marqué, ouais. Sur le timing du week-end, mais seule la victoire sera belle. Elle était belle parce qu'on a eu vraiment peur avant le match. Je sentais une telle pression, une telle émotion, une telle envie de bien faire, un tel stress. Et quand tu as trop de stress en général, tu te rabougris dans ta façon de jouer. Tu joues pas comme tu sais jouer. On a fait des en avant qu'on ne doit pas faire. On a eu du mal à se mettre dans le tempo de ce match. Mais heureusement, après, à la mi-temps, je leur ai dit, si on ne se lâche pas, on va perdre ce match.
Ouais, vous avez
des 6-3 à la mi-temps.
Ouais, vous avez une première mi-temps compliquée avec beaucoup de fautes de main, du déchet. Deuxième mi-temps bien meilleur avec beaucoup d'enthousiasme et de jeu.
Voilà.
T'as demandé de balancer un peu de jeu, je pense, pas plus de jeu en deuxième mi-temps.
J'ai juste demandé de se lâcher parce que si on continue à jouer comme ça, de toute manière, on allait vers l'échec. Donc lâchez-vous. Ouais. Lâchez-vous. À perdre, on va perdre les armes à la main. Et pas comme ça, pas petitement. Donc ils se sont lâchés. Mais même en première mi-temps, je sentais qu'il y avait quelque chose, un déclic qui pouvait se passer à tout moment. Donc les mecs ont fait le job. Je pense qu'on va monter, les mecs vont se rassurer, on va monter en puissance, on va monter en rapidité, en organisation. Je pense qu'on ne peut que monter.
Oui, bien sûr, vous avez fait c'est une victoire, soit la victoire était importante. Il y a aussi l'entrée du banc qui a été excellente.
Oui,
ton Gontier qui a été très bon et les joueurs qui sont rentrés du banc ont apporté vraiment quelque chose.
Ce jour-là, il ne faut pas dénigrer ceux qui ont commencé non plus, mais c'est vrai que les remplaçants ont beaucoup amené et amené de l'envie, de l'application, et puis on a marqué,
c'est bien déroulé. C'est bien, et une des recrues qui a fait un très beau match, c'est Edgar Bazin.
Oui.
Premier match, et excellent match. Alors, on ne retient pas que lui, mais ça a été un acteur principal de ce premier match, Edgar.
Oui, c'est quelqu'un qui pèse sur le match, mais comme beaucoup ont pesé sur le match, j'ai du mal à ressortir un joueur. Ça n'a pas été un match féerique, mais ça a été un match où les joueurs se sont donnés malgré tout. J'ai ressenti ça aussi à la fin du match, quand j'ai rencontré des partenaires et pas mal de gens qui m'ont dit que ça leur avait fait plaisir de revoir un certain état d'esprit à du grade. Et déjà de gagner, d'avoir un certain état d'esprit, et ça je pense que ça va plaire à tout le monde.
Ouais, c'est bien d'attaquer par une victoire de plus à la maison. Prochain match qui arrive dimanche ou samedi?
Samedi, 19h30 à Nîmes.
Samedi à Nîmes qui joue la montée. voilà, comme l'année dernière, et qui est allé à Orléans chercher le point de bonus offensif avec une défaite 17-12. Match pas évident.
Non, on est conscient que nous, on sait d'où on vient, donc on sait qui on rencontre, on sait qu'on rencontre une des plus belles équipes de National 2, sauf un moment qu'ils tiennent le haut du pavé dans cette division. On connaît leurs ambitions, on connaît leur budget, on connaît leur ville, connaît leur état d'esprit, on sait que ça va être très très difficile. Nous on y va sans pression, voilà.
Bon, ben écoute, merci pour ce début de saison. On va un petit peu parler de toi en général. Mm-hmm. On va sortir un peu du club. T'es quelqu'un d'entier et de passionné, moi, ce que je vois sur le bord du terrain.
Excessif parfois.
Excessif.
Non, sur le bord du terrain parfois. Après, dans la vie, non, pas du tout. Sur le bord du terrain, j'ai tendance un peu à m'emporter, mais de moins en moins. Hein. Je prends des antidépresseurs. Ah. Non, c'est pas vrai. Non, mais la maturité, là, je fais que j'arrive à me contrôler un peu mieux.
Bon. Honnêtement, qu'est-ce qui t'a... C'est le discours des dirigeants qui t'ont motivé pour venir au Benin?
Bah, c'est même pas l'aspect financier, tu vois, c'est ce que peut-être certains pensent, parce que c'est même pas ça. Avec les déplacements que je fais pour rentrer chez moi à Toulouse, ouais, souvent et tout, financièrement, je pourrais être mieux loti sur un club de Fédéral 3 dans la région Midi-Pyrénées. C'est pas du tout sur un point. C'est ce challenge qui m'a plu, c'est la Nationale 2, c'est ce rugby un petit peu professionnel, c'est ce rugby toujours pareil, c'est un club un petit peu en difficulté. Ce genre de projet m'excite. Et voilà.
Ouais, tu l'as dit, il y a 2 ans de contrat, mais ces dernières années, il y a pas mal d'entraîneurs qui sont succédés justement au Benin, oui, puisque le club a été en difficulté.
J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'étais me présenter au service des sports de la mairie d'Aubenas pour dire qu'on aurait l'occasion de travailler souvent ensemble et si voilà que je me présentais, si je les appelais pour un terrain ou autre. Ils m'ont répondu, ils étaient sympas, ils étaient surpris, ils ont dit c'est bien, c'est une des premières fois que manager se présente. Et la dame m'a dit, tout à la fois, ils n'ont pas trop eu le temps parce qu'ils ne sont pas restés longtemps.
Ouais.
3 managers en 3 ans.
En 3 ans, en espérant que tu ailles au-delà de ton contrat des 2 ans, ce qui pourrait dire.
J'ai vissé le siège injectable, je l'ai un peu.
Tu l'as gardé. Alors, on va parler un petit peu de ce que tu attends de tes joueurs. Sur quel rugby tu souhaites t'appuyer cette année avec des joueurs que tu as à ta disposition?
Sur quel, pardon?
Rugby, tu...
Moi, au-delà du rugby, ce que j'attends vraiment, c'est un état d'esprit. Voilà, moi je leur ai dit, j'accepte une faute de main, une pénalité loupée, un lancer loupé, un 2 contre 1 loupé. Je peux accepter ça. Ce que je n'accepte pas, ce qui est pas négociable du tout, c'est l'état d'esprit. Si on se vide pas sur le terrain, si on donne pas tout ce qu'on a dans le ventre, ça je peux pas accepter. Donc avant de parler rugby, je voudrais parler d'état d'esprit en dehors et sur le terrain.
D'accord. Et on a parlé des recrues. Maintenant, on l'a vu avec Xavier, il y a un centre de formation qui est plutôt sympa et quelques bons joueurs. Tu vas t'appuyer sur des jeunes éléments que tu as pu voir là?
Bien sûr, je rêverais que des jeunes Ardéchois montent en première rapidement. C'est vrai que ça serait pour moi une obligation, ça serait pour moi... Mais il va falloir que ces jeunes arrivent vite, me montrent qu'ils soient performants. C'est pas parce que tu es Ardéchois que tu vas jouer en première. Il faut aussi que tu aies de la qualité. Sois patient. Moi, je rêverais, je te dis, qu'il y ait plus de la moitié de l'équipe qui soit de la région, du département ou de la ville. Travaillons dans ce sens.
D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va faire une petite pause avec Alec Benjamin et sa chanson Holder. Alors, je ne sais pas si tu connais ce chanteur. Pas du tout. Donc, et on se retrouve après 2 minutes 40 pour la troisième partie avec Eric. Allez, chers auditeurs de FM, on se retrouve pour la troisième partie avec Eric Mercadier, qui n'a pas bougé de son fauteuil, il est resté bien sage durant la pause, il a écouté notre chanson. Après avoir parlé un petit peu d'Aubenas, des objectifs et de la saison qui arrive, on va revenir quand même sur Château-Renard, puisqu'on est venu l'année dernière avec la radio vous suivre et suivre les huitièmes de finale, entre autres contre Chartres, où vous avez perdu de 5 points. Sur les 2 matchs. Tu as été invaincu à Coubertin pendant 2 ans avec le club de Château.
Oui, c'était pas donné d'avance.
Ouais, c'était pas domaine d'avance. On en parlait avant l'émission. Comment t'as pu tirer la quintessence et le meilleur de ce groupe? Parce que c'était un groupe qui n'avait pas de moyens financiers au niveau des autres équipes de Fédéral 1 pendant deux saisons, puisqu'elle était en difficulté. T'as été appelé, on le rappelle, par Jean-Marc Pigeot, que le club était quasiment en liquidation judiciaire. Et vous avez remonté le club autant sportivement que financièrement. Alors toi, c'est le côté sportif. Mais quel bilan tu tires finalement de ces deux années qui te laissent peut-être un goût amer et une fin d'une aventure?
Non,
que...
pas du tout. Non. Deux ans qui m'ont aussi apporté beaucoup. Deux ans très riches. C'est ce que je recherche exactement, c'est cette aventure humaine. Deux ans où on nous avait annoncé une descente presque déjà faite en début de saison. Et malgré des points perdus administrativement, dès la première, on s'est quand même qualifié en barrage. La seconde, on est qualifié directement en étant seconde de poule. Et on perd juste à un match du match de la montée. Et avec un peu plus d'ambition, je pense qu'on aurait dû passer même Chartres. C'était vraiment très très bien avec ce groupe très jeune, la plupart des joueurs espoirs de l'année avant qui avaient fini 7-8e. Donc c'est vrai que je suis arrivé, j'ai eu un peu peur sur les premiers entraînements et tout, puis après j'ai vu qu'il y avait un état d'esprit. Et je l'ai vu dès le premier stage, on a fait un petit stage là au Gros du Roi où on n'avait pas d'argent. Je l'ai dit aux joueurs soir. On part nous, le club n'a pas d'argent, donc on a été voir des partenaires qui nous ont donné des tomates, qui nous ont donné à manger, on s'est fait, les blessés ont fait à manger, on a passé un moment fantastique, deux jours, et il s'est créé quelque chose de là. Et puis voilà, pendant deux ans, on a fait peur à tout le monde à la maison, on a surpris du monde à l'extérieur aussi, on a été gagné des gros matchs à l'extérieur, à Berlétang, au Caisse du Coudon, enfin on a gagné des gros matchs à l'extérieur, et ce qui a fait qu'on a fini second l'année dernière, et champion d'automne à mi-saison.
Ouais.
Ah oui, on aurait signé dès demain pour tout ça.
Hein. Ouais, non, c'est encore une fois, ça te représente. C'est un club qui était à la ramasse et vous êtes arrivé à faire quelque chose d'assez incroyable sur ces deux saisons-là, surtout la saison dernière, où ce match de Chartres, moi j'étais avec Coubertin plein.
C'était féerique là, d'entrer avec ce monde, avec cette ambiance. Franchement, j'ai encore de l'émotion quand j'y repense. Je trouve dommage qu'on ne soit pas passé parce que franchement, on méritait de passer. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis tu parles d'amertume, je regarde toujours devant en fait. C'était compliqué financièrement.
Ouais, bien sûr.
C'est un commun accord. C'est vrai que je reste sur un petit goût inachevé parce que deux ans être manager deux ans, ça suffit pas. On aurait un petit peu les moyens, j'aurais essayé de garder tous ces jeunes et de construire une équipe qui aurait fait très très mal à Fédéral 1. Bon voilà, la situation financière fait que ça n'a pas été possible. Donc écoute, maintenant c'est fini. Ça a été une étape qui restera dans ma vie, gravée, un petit coin dans ma tête. Mais maintenant je suis à fond et à 100% au Benin et je pense qu'à ça.
Ouais, c'est un projet de vie. Et puis maintenant tu es au Benin, on va quand même passer le bonjour à Jean-Marc Pigeot, que j'ai reçu et qui doit nous écouter au fond de son bar là-bas, à Saint-Rémy. Alors après Château, on va revenir sur autre chose. On va pas parler de l'actualité puisque française, puisque les championnats de national et de Pro D2 ont rattaqué cette saison. Mmh. Il y avait aussi, bon, alors les résultats on s'en fout, mais il y avait le Rugby Championships qui c'est un tournoi entre les quatre gros que sont l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Mmh. Donc les résultats, parce que je pense que toi ni moi on aura regardé ces matchs ce week-end. Mais je vais revenir sur autre chose parce que je pense qu'il y a pas mal de connaisseurs de rugby qui ne savent pas que tu as eu une étape aussi en tant que sélectionneur du Monténégro et de la Serbie.
Voilà. Alors sélectionneur de Monténégro et puis j'ai fait une intervention en Serbie sur un match très très important. Voilà, ouais. Sélectionneur de Monténégro, c'est mon ami Michel Milovic qui était à l'époque troisième ligne au loup avec moi, qui un jour m'appelle, il me demande si ça m'intéressait. Bon, je dis oui, moi je pars, il n'y a pas d'argent, voilà, on te paye juste le trajet, puis il faut que tu... Il n'y a pas de problème, moi ce qui m'intéresse c'est l'aventure humaine et on a... Et j'ai été servi.
Ouais, et justement sur le plan personnel, de découvrir un autre pays, une autre culture, ça t'a apporté...
Ben, moi je parle ni serbe, ni anglais, ni rien. Je parle parfois patois de mes grands-parents ou occitans, mais donc quand tu arrives au fin fond du Monténégro, il faut être un peu fou.
Ah ouais.
Et voilà. Et j'ai rencontré des mecs hyper motivés parce que, pareil, pour eux, c'est pas une nation où le rugby c'est un sport majeur, c'est mineur. Il y a du foot, du handball, du water polo, du basket. Et le rugby, c'est des originaux qui font du rugby chez eux. Donc, arriver à fédérer et en plus, cette année-là, on gagne la finale contre la Bulgarie. C'était extraordinaire. En 15 jours de préparation, j'ai vécu un moment, mais vraiment très, très indescriptible.
Ouais, c'est quelque chose, c'est une aventure.
C'est exactement ce que je recherche, en fait.
C'est
pour ça que je fais du rugby. C'est pas pour autre chose.
Ça te caractérise vraiment, cette aventure loin de chez nous. Et puis, j'ai une autre question, puisque tu as quand même des 4 Géorgiens, 2 internationales belges dans ton équipe. Aujourd'hui, sur le plan européen et mondial, il y a une émergence où les 6 équipes du tournoi de destination émergent, l'Italie, la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, etc., qui sont au niveau mondial. Et derrière, par rapport à d'autres sports collectifs, où tous les 2-3 ans, il y a, que ce soit le foot, le basket, le hand, il y a des équipes européennes qui arrivent à sortir, se mettre au niveau des meilleures équipes. Dans le rugby, que ce soit la Géorgie, la Roumanie, le Portugal ou l'Espagne, qui sont des nations qui ne sont pas encore majeures et qui n'arrivent pas à titiller une équipe comme l'Italie, qui est la plus faible des 6. Est-ce que toi qui as fait le Monténégro et la Serbie, est-ce qu'il y a un problème au niveau des fédérations? Qu'est-ce qui manque à des nations comme ça pour ce...
C'est peut-être moins culturel que chez nous, donc que ce soit l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, la France, le rugby c'est quelque chose de majeur. Ailleurs, peut-être pas. La Géorgie, oui, mais il y a peut-être un manque d'effectifs, un manque de monde, et beaucoup de Géorgiens, tous les Géorgiens pratiquement jouent en France. Donc oui. Mais c'est des superbes nations de rugby, hein, que ce soit la Géorgie, le Portugal, la Belgique, avec mon ami Laurent Dossat, sélectionneur. C'est vraiment des belles nations de rugby, hein, même si elles arriveront jamais au niveau de l'équipe de France,
ouais,
et des autres pays, mais c'est comme ça. Mais c'est quand même
Tu penses que c'est un problème culturel?
Ouais, d'infrastructures, de moyens financiers, de joueurs. Mais ouais. D'après moi, ils n'arriveront jamais. La Roumanie, à l'époque, ça titillait l'équipe de France. Je me souviens même de matchs de l'équipe de France qui a perdu en Roumanie à l'époque avant le tournoi. Bon, maintenant, ça ne sera plus possible.
Ouais, mais alors, après, par exemple, sur le continent sud-américain, on voit l'Uruguay qui émerge quand même et qui arrive à sortir de très gros joueurs. L'Argentine, qui n'est pas un pays majeur avant. Il y a encore 15-20 ans, l'Argentine qui a monté en progression, qui sort des joueurs quand même exceptionnels.
Ouais, avec le rugby professionnel, il y a une grosse différence entre ces nations majeures là et les autres nations. Voilà, c'est comme ça. Tous les joueurs sont professionnels, tous les joueurs sont hyper bien préparés. Je pense que ces pays n'arriveront pas à rejoindre ce niveau là mais bon, c'est bien qu'il y ait plusieurs niveaux, et c'est bien qu'il y ait des équipes, je te dis, comme la Belgique qui est en train de monter en puissance, le Portugal aussi, la Roumanie. C'est aussi franchement, c'est des beaux pays de rugby, mais ça n'arrivera jamais à ce niveau-là,
bien sûr. Donc on va te libérer parce que c'est déjà 11h. Pour clôturer un peu l'émission, on va parler d'un truc assez sympa, c'est tes causeries. Tes causeries d'avant match. Alors moi j'en ai mis quelques-unes, puisque il y en a certaines qui ont fait le tour des réseaux sociaux.
Oui,
on en partagera une. Surtout moi j'en ai vu une quand tu étais à Saberday, il me semble.
Ouais, elles sont de là en général.
Ces causeries, c'est tu les vis au moment présent. Il y a rien qui est calculé.
Ouais, tout ce que je dis, c'est un instinct. Je calcule jamais ce que je vais dire, parce que j'ai voulu une fois calculer ce que j'allais dire, j'ai pas été bon. Je dis pas que d'habitude je suis bon, mais j'étais encore moins bon. Et non, et là ces vidéos, elles sortent parce que il y avait l'équipe TV qui nous avait suivi une année, qui était d'ailleurs un éclairage sur le rugby amateur qui avait été fantastique, je trouve. On calculait pas, enfin je calculais pas et les joueurs ne calculaient plus, on les voyait plus, on était nous-mêmes, et voilà, c'est sorti. Ça fait un peu le bas. Alors au début c'était marrant, c'était super. Je pense que ça m'a desservi un peu sur le fait que je puisse pas entraîner à plus haut niveau. À un moment donné, on en a parlé, parce que j'étais estampillé, un entraîneur qui gueule, un peu à l'ancienne, avait des valeurs à l'ancienne. Parce que je crois pas que mes joueurs, ils m'aient entendu gueuler souvent. Je pense que j'ai un rugby et une façon de voir assez ouverte et moderne, ces 3 minutes t'estampillent entraîneur de rugby amateur qui gueule et qui voilà, c'est comme ça, je me suis fait une raison. Au début c'était marrant, faisais des selfies partout à tout le monde, tout le monde voulait, mais ce qui est marrant au départ, je me suis aperçu que c'était pas forcément très bon pour ma carrière.
Finalement, ça t'a desservi
Honnêtement, je pense, on me l'a dit et je m'en suis aperçu.
D'accord. Bon.
C'est pas grave.
Écoute, 2 dernières questions. On va revenir assez longtemps en arrière maintenant, puisque tu as arrêté d'être voire en quelle année? C'était pas ma question par rapport aux 4-5 clubs où tu as joué. Est-ce qu'il y a un joueur à ressortir où tu as été émerveillé par ce joueur-là en tant que coéquipier?
Des joueurs, j'en ai connu plein. S'il y en avait un à ressortir, ça serait Francis Ruy quand je suis arrivé à Castres. Ouais. C'était l'ouverture, c'était notre papa, c'était notre idole, c'était notre mentor. Et on a été champion de France avec lui. Il aurait pu, quand il parlait, on avait envie d'aller. Il nous aurait dit, il faut défoncer le mur, on aurait défoncé le mur. Et, alors s'il y en a un qui doit rester, ça sera lui. Après, il y en a plein qui m'ont marqué, plein qui m'ont ému, plein qui m'ont touché, plein avec qui je suis encore en contact. De Jean-Luc Vidal, le pilier droit de Castres, un phénomène, d'Alain Royer, le neuf de Lyon, qui habite à Auberive sur Varèse. Donc, des mecs fantastiques avec qui je suis encore en contact. Et voilà.
D'accord. Et en tant que joueur, le joueur qui t'a le plus impressionné, en tant qu'adversaire, ouais, celui qui t'a le plus impressionné, où tu te dis, oula, là, c'est. Oui. Est-ce que tu en as un, souvenir?
Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont impressionné, de Marc Cécilion. Francis Desjardins, on parle des secondes lignes là, tu vois. Moi je jouais seconde ligne, donc moi j'étais gamin et il y avait en face il y avait du lourd.
Il y avait des gros. Et ouais. Alors ça c'est en tant que joueur, et en tant qu'entraîneur par rapport à tous les joueurs à qui tu as pu partager, est-ce qu'il y en a vraiment un qui t'a impressionné sur tous les clubs où tu es passé?
C'est difficile à sortir ça.
Ça aussi.
Et pareil, dans tous les clubs, plein de joueurs m'ont enthousiasmé, d'autres m'ont déçu, d'autres m'ont trahi, mais c'est la vie, c'est le sport et c'est la vie en général.
Bon, écoute, merci beaucoup pour ces belles paroles. On va se quitter et je vais te laisser vaguer à tes occupations, et moi aussi d'ailleurs. On vous suivra.
Merci beaucoup en tout cas.
Ben, écoute, je t'en prie, on vous suivra puisqu'on fera un petit reportage en direct d'Aubenas sur le prochain match contre Dijon, il me semble, à domicile.
Dijon, ouais, dans 15 jours.
Dans 15 jours, donc on sera présent à Aubenas dans 15 jours.
Génial.
Avec la radio, et écoute, je te recevrai avec plaisir au fil de la saison pour faire une intervention et pour suivre un petit peu le club et l'évolution en termes de résultats et de tes choix.
Eh bien, écoute, ça sera avec plaisir et ça, j'espère que ça sera après une victoire.
Ah ben oui, chaque fois. Après, je regarderai après chaque victoire, je t'appellerai, mais bon, ça va te faire de la route à chaque fois venir de Benin.
C'est pas grave.
Bon, et alors je vais passer quand même un petit bonjour à Kevin, qui est un cher auditeur et qui m'envoie des messages depuis tout à l'heure. Et que je pense lui aussi va venir au Benin ou suivre. Vous avez un spectateur en plus.
Ah, génial, viens Kevin. On a besoin de monde. On a besoin de monde, de bénévoles, de dirigeants, de jeunes arbitres. Enfin, on a vraiment besoin de monde pour se réinvestir autour du club. Voilà, c'est vraiment. On est vraiment dans l'attente de tout ça.
Ouais, bien sûr. Écoute, on va lancer un appel et sur notre site aussi. S'il y a des personnes à proximité d'Aubena et de la région ardéchoise.
On les prend.
Ok. Mais écoute, merci beaucoup Eric, et chers auditeurs à Fly FM, on se retrouve vendredi avec Xavier Mouret, l'entraîneur du Stade Bocquerois, et peut-être Johnny Ecker aussi, ancien joueur de Marseille qui est l'autre président, puisqu'ils sont deux présidents, où on reviendra sur les débuts de championnat de National 3 et comme avec toi sur l'intersaison un petit peu de Beaucaire.
Super.